Les infos choisies
chaque vendredi de 12h30 à 13h
sur Radio Galère à Marseille
et Ayoli Radio à Avignon.
Des infos
qui nous touchent,
qui nous concernent,
qui nous ressemblent,
qui nous parlent,
qui nous donnent de la force,
qui nous font réagir.
C'est parti pour 30 minutes d'infos choisies.
Bonjour. Bonjour, bonjour.
Salut.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Nous sommes le vendredi 8 septembre, vous êtes sur...
Novembre.
Novembre ?
Eh ouais, déjà.
Oh putain, merde. Il est 12h31, bienvenue aux Infos Choisies, vous êtes sur Radio Galère 88.4. Bonjour aussi aux auditeuristes de Radio Ayoli, diffusée en direct sur le pont d'Avignon.
Et nous recevons aujourd'hui une personne du festival Le Nuage était sous nos pieds, bonjour.
Bonjour.
Et nous allons commencer tout de suite par un édito. Alors Donald Trump a été de nouveau élu à la présidence des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui donne envie d'élire des Le Pen, des Meloni, des Bardella ? Sûrement le besoin de rêver le retour du monde avant l'inflation. De croire que ces beaux parleurs peuvent redonner du pouvoir d'achat et rouvrir la boulangerie du coin quand on habite à la campagne. Je pense qu'il est plus facile de convoquer les vieux imaginaires, ceux des Trente Glorieuses et du profit capitaliste inépuisable, ceux des étrangers chez eux, ceux de l'abondance de richesses issues des colonies, ceux de la main-d'œuvre bon marché heureuse de travailler à l'usine ou au McDo. Les espoirs de justice sociale sont bien démolis par 4 décennies d'ultralibéralisme et de remontée des fascismes. Il est plus difficile d'amener dans les esprits des imaginaires enviables à partir de l'égalité, de l'anticapitalisme, de l'anticolonialisme, de l'auto-organisation. Ça fait flipper plutôt, car c'est une zone plus floue, à décortiquer, à construire, à imaginer. Ça passe par une réorganisation généralisée, une équation à de multiples inconnus. C'est même un peu tabou d'imaginer d'autres possibles. Mais ça redonne un peu d'élan quand on dérouille cette mécanique. Envisager en permanence le pire permet aux puissants d'imposer des conditions de vie et de travail toujours plus pénibles. La peur du lendemain pour nous résigner à un présent lamentable. La haine de l'autre et la fabrication d'une guerre entre pauvres pour diviser et isoler, pour désamorcer tout désir commun qui contesterait l'ordre des puissants. Alors prenons le contre-pied de la peur et imaginons nos vies plus émancipées. Faisons le pari que s'approprier des imaginaires positifs fracturerait cette dynamique d'individualisation et d'asservissement. Sabotons la peur du vide. Contrer l'extrême droite n'est pas un enjeu ponctuel ni seulement récent. Au-delà des luttes très matérielles pour l'accès aux droits pour toutes, contre l'exploitation, les violences et les discriminations, il s'agit de refuser le langage de l'extrême droite, son cadre de pensée et ses priorités. Cela se passe là par la diffusion d'autres récits, nos histoires de solidarité, de lutte et d'émancipation pour nous tenir ensemble, l'exploration de nos peurs et de nos douleurs pour les apprivoiser, le décortiquage de nos évidences et de nos stéréotypes pour mieux riposter. Des imaginaires d'avenir ouverts, inclusifs et joyeux pour raviver du désir. C'est aussi réfléchir sur les fake news et les argumentaires complotistes. Voilà, pour conclure cet édito, j'ai une pensée pour Lunar, un ami cher qui nous a quittés ce matin. Sache qu'on continuera à diffuser nos imaginaires subversifs comme rempart aux idéologies réactionnaires.
Les infos choisies, vendredi,
les
12h30.
Les infos choisies, vendredi,
les 12h30. Infos choisies, vendredi, 12h30.
Alors, nous allons continuer cette émission par l'ouverture du procès dit de la rue d'Aubagne, qui se tient depuis hier devant le tribunal correctionnel de Marseille. Un procès qu'aux infos choisies, on a choisi donc de nommer le procès des responsables du meurtre de Ouloum, Julien, Taher, Shérif, Fabien, Simona, Papé, Marie-Emmanuelle. Tous et toutes des habitants de Marseille décédés suite aux effondrements de leurs immeubles situés aux 63 et 65 de la rue d'Aubagne le 5 novembre 2018. Utiliser le mot meurtre pour qualifier ce qu'il s'est passé peut être jugé excessif par certains. C'est un procès qui se tient devant une cour correctionnelle qui ne juge que des délits. Les crimes sont jugés, eux, devant une cour d'assises. En utilisant ce mot, nous voulons insister sur le fait que c'est un crime. Quand les propriétaires, des bailleurs sociaux, des marchands de sommeil, des experts et des architectes laissent à l'abandon des immeubles et des quartiers entiers, ils se foutent pas mal de la vie des gens. Et lorsqu'ils sont encouragés par un système spéculatif, qu'ils sont encadrés et protégés par la municipalité, il s'agit bel et bien d'un crime commis en bande organisée. On ne va pas parler du procès, parce que aussi vous pouvez le suivre sur... Vous pouvez le suivre sur, en ligne sur Mars Actu grâce au live qu'il y a sur leur site internet. Et nous, on voulait juste revenir aussi sur un moment bien précis, c'est le 15 octobre 2019, soit un an après les effondrements, presque un an après les effondrements, quand un permis de louer est de nouveau en vigueur. Il est délivré par la mairie et la préfecture le valide le 15 octobre 2019. Et ce permis concerne les bâtiments qui sont à Noailles, entre la Canebière, la rue Saint-Ferréol, la rue Jean-Baptiste Estelle et le boulevard Garibaldi. En gros, le pâté de maison que la rue d'Aubagne traverse. Ce qui veut dire en gros... qu'ils ont donné le 15 octobre 2019 la possibilité à des propriétaires de faire payer des locataires dans un quartier sinistré. Alors qu'au même moment, il y a encore plus de 410 personnes qui habitent ce même secteur qui ont été évacuées et qui sont toujours à l'hôtel sans proposition de relogement. En novembre 2019 et depuis les effondrements, c'est 370 immeubles qui ont fermé dans le quartier. Et à l'échelle de la ville, c'est 2842 immeubles qui sont mis en péril et évacués, principalement dans le quartier de la Belle de Mai et de la Plaine. En tout, c'est 3252 personnes qui se retrouvent à devoir payer dans l'heure, à devoir partir dans l'heure et faire leurs valises dans l'urgence. Eh bien, voilà, ça laisse juste dire que, mis à part le fait qu'ils ont évacué dans l'urgence des personnes, qu'ils ont remis au même moment la possibilité pour les propriétaires dans un même quartier de faire payer les loyers à des personnes qui y sont encore, bon, c'est à se demander si les personnes qui ont été évacuées ont pu retourner dans leurs immeubles, si elles ont payé un loyer aussi. Compliqué, quoi. On va juste finir cette... ce chapitre par les mots de Maria, qui est la mère de Simona, qui dit « Ce n'est pas l'effondrement d'un immeuble, c'est l'effondrement d'une vie, de plusieurs vies, de ma vie. Et ce qu'on souhaite, c'est que plus jamais cela ne se reproduise et que plus jamais quelqu'un ait à vivre ce que nous, on vit et ce qu'on est en train de vivre. »
Les infos choisies, vendredi,
les
midi
30. Les infos choisies, vendredi,
les midi 30. Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Et oui, la guerre, elle est partout, elle est dans nos rues à Marseille et elle est aussi dans l'agenda. Lundi 11 novembre, on va célébrer le fameux armistice. Alors moi, j'avais envie de dire quelques mots contre la guerre et pour l'antimilitarisme. Je vais lire quelques passages d'un appel à une journée antimilitariste à Saint-Étienne organisée par des compas anarchistes à l'occasion de cette date. Du coup, la guerre demain. Hier comme aujourd'hui, la guerre ne s'arrête jamais. La paix étatique et capitaliste n'en est jamais une pour tout le monde. La séparation entre l'ennemi extérieur et l'ennemi intérieur n'est qu'une question de choix de tactique. La sécurité n'est que la face civile du contrôle social. C'est le monde dans lequel nous vivons, déjà, et qui nous insupporte. Depuis plusieurs années, l'atmosphère militariste monte en pression. La propagande médiatique nous bombarde d'images chocs, nous enjoignant à choisir notre camp, quitte à surfer sur le nationalisme des plus fétides. Le langage du pouvoir prend des accents toujours plus orwelliens. Entre l'affirmation de plus en plus décomplexée d'intentions sordides et le mélange des genres, rendant l'exercice de la pensée difficile, le SNU est présenté comme un outil d'émancipation et d'engagement citoyen. Le ministre des Armées Lecornu encourage le patriotisme du capitalisme français, à savoir son aptitude à faire du profit sur la guerre et toujours plus d'armes « made in France » en circulation dans le monde. L'état-major n'hésite plus à évoquer le potentiel sacrifice national. Des mots bien dégueulasses. Mais l'instauration de l'état de guerre ne s'arrête pas au seul discours. Plus silencieuses sont l'infrastructure matérielle, industrie de l'armement et financement public, et la construction d'un cadre légal resserrant toujours plus l'étau du contrôle. On a aussi fait ces dernières années des avancées considérables. Augmentation sans précédent du budget militaire, qui va livrer A, finançant bientôt l'armement, loi de réquisition, loi sur les ingérences étrangères et autres dispositions qui accroissent toujours les moyens de répression et de surveillance de celles et ceux qui remettraient en cause le bien fondé de l'avenir kaki. Voilà, donc je m'arrête là. Je vous invite à aller voir le texte en entier sur le réseau Mutu de Saint-Étienne, numéro 0, c'est le site internet. Et là, aujourd'hui, on va parler du coup du festival sur le nuage des sous-nos-pieds et à bas la guerre, à bas l'armement qui passe, et la militarisation qui passe aussi par les industries et les data centers.
Hé, c'est les infos choisies.
Bonjour, donc tu viens nous parler du festival Le Nuage était sous nos pieds qui commence aujourd'hui, qui se propose de lutter contre les infrastructures du numérique. Et peu de personnes, effectivement, à Marseille savent que l'essor économique de la ville se passe notamment actuellement par la mise en place des data centers. Donc bonjour d'abord, est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour, bah écoute, moi je m'appelle Anti et je fais partie d'un petit collectif qui s'appelle le collectif des Gamards. Le Gamard, c'est une crevette, c'est une espèce bio-indicatrice de la qualité des eaux. Et en fait, nous, on travaille sur la question de comment est-ce qu'on prend soin de nos cours d'eau à Marseille. Et peut-être que ça paraît pas tout de suite évident pourquoi est-ce qu'on en arrive sur la question des data centers, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les data centers ont des systèmes de refroidissement qui nécessitent beaucoup d'eau. Et là, plus spécifiquement, à Marseille, il y a une galerie minière qui s'appelle la Galerie à la Mer, qui est une ancienne galerie qui servait à vider les eaux de mine de Gardanne. Et qui du coup fabrique une espèce d'eau à 15,5 degrés. Et depuis quelques années maintenant, Digital Realty, du coup, qui est un grand propriétaire des data centers sur le port de Marseille, utilise cette eau pour refroidir les data centers.
Et les gamards, c'est bien les petites crevettes qu'on entend quand on fait du masque tuba et les petits clics, clics, clics qu'on entend.
Alors en fait, les gamards, c'est une famille assez large. Et en réalité, les... Mais bon, je ne sais pas si c'est ça.
Non, mais c'était juste une petite parenthèse. Parce que, écoutez, quand vous êtes sous l'eau, vous entendez des petits clics, clics, et c'est les frottements des crevettes. Voilà, bref. Ça, c'est la partie sonore qui passionne des fonds sous-marins. Mais sinon, donc les data centers à Marseille, là, tu as expliqué très rapidement les enjeux. Est-ce que tu peux revenir un peu plus sur le hub qui a aidé au développement à Marseille et pas forcément dans d'autres endroits, pas moins à Toulouse qu'à Marseille, par exemple?
Bah, du coup, peut-être, si ça va, je peux juste repréciser cette histoire-là. Au sein du collectif des Gamards, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup moins d'eau dans le ruisseau et qu'à partir de cette manque d'eau, on a commencé à chercher l'eau manquante. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur cette histoire de Galerie à la Mer, qui, du coup, est une grande percée sous le massif de l'Étoile qui détourne les réseaux karstiques, donc les circulations souterraines de l'eau. Et on a découvert qu'à partir de 2021, cette eau-là était prélevée dans un système de refroidissement qui permet de refroidir du coup des data centers qui sont dans l'enceinte du grand port maritime de Marseille. Et le premier data center dont nous on a eu vent, c'était celui de... C'était un des fameux hubs de data center de Digital Realty qui est dans l'ancienne base nazie qui est sur le port de Marseille, la Martha, qui est un ancien bunker qui existe sur le port et qu'on voit quand on prend le bus sur le littoral. Et du coup, là, on s'est rendu compte de ça et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait toute une partie de cette eau-là qui était détournée pour refroidir les data centers. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout un problème isolé, que ce data center-là, il était accompagné de, en tout cas à cet emplacement-là, de deux autres data centers. Et il y a un quatrième data center de cette même grosse compagnie qui est au niveau de l'hôpital européen à côté de Désiré Clary et qui jouxte le CSU, donc le centre de supervision urbaine. Donc c'est là où on peut voir les résultats des caméras de vidéo surveillance. Et du coup, en fait, nous, on a rencontré un peu cette problématique-là à partir de la question de l'eau et très vite, on a croisé des gens de Technopolis et de la Quadrature du Net et qui étaient en train de réfléchir à bah, justement quels étaient les soubassements matériels de ce net actuel qui bafoue la plupart des libertés fondamentales et les infrastructures qui rendent possible ce système de technosurveillance à laquelle on est confronté ici à Marseille. Et donc c'est là qu'on arrive sur ces data centers, donc l'histoire des data centers. Pour comprendre ce que c'est qu'un data center, nous on a essayer de réfléchir à trouver une manière de le dire simplement. On a trouvé une espèce de truc qui est méga ordinateur bétonné en surchauffe. Tout ça pour dire qu'en réalité, un data center, c'est des centaines de milliers d'ordinateurs. En tout cas, c'est des serveurs qui sont stockés dans des armoires qui chauffent comme les ordinateurs chauffent si tu les laisses sur les genoux. Sauf que là, c'est des ordinateurs qui sont beaucoup plus puissants et qui sont en très grand nombre. Et donc, il y a plein de problématiques à cette question-là. C'est notamment c'est une consommation électrique immense. Donc, par exemple, l'ADEME considère qu'un data center classique équivaut à la consommation électrique d'une ville de 100 000 habitants. Là, ce hub de data center, on serait plutôt sur du 50 000 habitants, mais bon, les chiffres sont toujours difficiles à trouver, etc. Mais tout ça pour dire que c'est une consommation électrique qui est gigantesque. Donc ça, c'est un des premiers problèmes. Et que ça a créé à Marseille de nombreux conflits d'usage, notamment Capo Nord, qui est une asso qui lutte contre la pollution atmosphérique dans les quartiers nord, notamment liée aux bateaux de croisière, se mobilise aussi avec nous sur la question des data centers parce que justement les data centers ont saturé l'adduction en électricité sur le port et du coup il y a toute une série de processus d'électrification qui sont ralentis par la prédation des data centers sur l'électricité. Mais je pense que là, ça crée toute une série de problématiques locales, notamment liées à la consommation électrique, à la consommation foncière, parce que du coup, c'est des espaces fonciers sur lesquels on ne peut rien faire d'autre et ça produit très, très peu d'emplois et presque exclusivement des emplois de surveillance et d'entretien de surface, etc. Donc, c'est très peu bénéfique en termes d'emploi pour la ville. Donc ça, c'est, je le dis parce que c'est un des arguments assez importants de leur communication, c'est que ça créerait beaucoup d'emplois indirects. Mais du coup, factuellement, c'est faux. Et ensuite, je pense que pour nous, ce qui a été important très vite, c'est de se détacher de la question spécifique du data center. C'est des impacts locaux, mais c'est aussi rappeler que les data centers, ils sont basés sur l'extractivisme mondialisé et que là, pendant notre festival, on invite un collectif qui s'appelle Génération Lumière et je vous invite vraiment à aller regarder le travail de Génération Lumière. C'est un collectif de réfugiés congolais qui alerte sur le fait que toute la transition numérique et énergétique est basé sur l'extractivisme au Congo et que l'extractivisme au Congo est basé sur une guerre perpétuelle.
Et pour rappel, l'extractivisme, c'est les mines, c'est l'extraction de minerais rares. Par rapport à ce que tu disais là sur les enjeux de saturation sur Marseille, le nouveau projet de data center, il y a Payan qui essaye de le conserver dans la métropole ex-Marseille, mais de l'amener à Aix parce qu'il y a des enjeux logistiques de saturation de l'espace marseillais aussi en termes électriques, comme tu disais, mais par rapport aux ressources. Et du coup, c'était juste pour dire ça qu'il y avait un énorme enjeu autour de ces data centers qui ont très rapidement saturé la ville.
Oui, je pense que après nous, pour l'instant, on s'est surtout concentré sur les gros data centers de colocation de cette entreprise américaine qui s'appelle Digital Realty. Après, il y a d'autres plus petits data centers qui posent plein d'autres questions et d'autres problématiques. Mais là, en ce moment, il va y avoir, donc il y a eu une enquête publique sur la construction d'un cinquième data center, donc MRS5, sur l'ancien silo à sucre dans l'enceinte portuaire. Et je pense que j'avais pas répondu à une partie de ta question qui était quand même importante, qui est pourquoi à Marseille, en fait, Digital Realty a décidé de faire de Marseille son nouveau point d'accroche comme un espèce de port colonial au bord de la Méditerranée pour étendre son emprise sur tout le territoire méditerranéen. Et en fait, ça les intéresse notamment parce que Marseille est le point d'arrivée des câbles.
Les câbles sous-marins.
Des câbles sous-marins en fibre optique parce que 99% de la données internet passent à travers des câbles en sous-marin. Et du coup, la plupart arrivent entre le Prado et Vieille-Chapelle. Et donc, il y a 18 câbles intercontinentaux qui font le tour de l'Afrique, qui partent d'Amérique du Sud, qui sont soit Google, soit Facebook, soit Orange, et qui viennent se pluguer ici au réseau terrestre européen. Ici, se connecter ici à Marseille. Et donc, c'est un gros enjeu stratégique dans l'entrée européenne.
Et donc, dans les data centers sont stockées les infos de beaucoup d'entreprises, notamment du militaire, mais aussi nos infos à nous de stockage de vidéos, etc. Mais l'usage, on va dire, individuel est minoritaire par rapport à l'usage commercial. Et il faut toujours rappeler aussi ça pour ne pas se culpabiliser non plus. Bon, on a cerné un peu les enjeux généraux. Est-ce que tu peux maintenant, peut-être plus qu'on a fait le tour, très rapidement, nous parler du festival ?
Ouais, ben je pense que effectivement là c'est il y a plein de en fait on se rend compte que c'est un espèce d'endroit un peu fourre-tout du capitalisme du technocapitalisme mondial. Tu as parlé rapidement des liens avec l'industrie de l'armement, ça c'est aussi quelque chose qu'on essaye vraiment de travailler. Et du coup là on s'est proposé de se donner un petit festival de 3 jours pour essayer de comprendre collectivement et commencer à déplier ces enjeux. Donc on n'a pas la prétention de dire qu'on sait tout de ces infrastructures-là, mais en réalité, on se rend compte à quel point c'est des infrastructures qui sont en train d'exploser à Marseille. Marseille est en train de devenir le cinquième hub mondial de données et c'est vraiment dans la stratégie à la fois de cette entreprise et de l'État français d'essayer de faire exploser la capacité de stockage des données parce que ça les intéresse pour plein de raisons, notamment géopolitiques, stratégiques, etc. Et du coup, dans ce festival, on se donne 3 jours. Donc ce soir, c'est la première soirée. On se retrouve au Gyptis à partir de 18h30 où on va projeter un film qui s'appelle World Brain, qui est un film de Stéphane Desgoutin et Gwenola Wagon, et qui nous parle de cette hypothèse de les infrastructures mondialisées du numérique fonctionnent comme un espèce de cerveau géant qu'il faut apprendre à combattre. On continue demain avec une balade urbaine où du coup on va aller marcher le long de ces infrastructures pour les situer, pour les rematérialiser, pour comprendre qu'en fait le numérique, tout ce qui est le cloud, que c'est le titre du festival, c'est le nuage était sous nos pieds. Donc ce cloud, ce nuage, en réalité, il est très matériel et on peut le localiser dans la ville. On peut voir ces bâtiments, on peut voir les infrastructures électriques qui sont construites pour. On peut voir la galerie minière qui est utilisée pour refroidir les data centers, etc. Et là, le but de cette balade, c'est de rendre très matériel et très concret ces infrastructures et comprendre que elles sont là, on peut presque les toucher. Alors, on ne peut pas les toucher parce qu'il y a des barrières et des caméras de vidéosurveillance.
Et des barbelés.
mais du coup, ça, c'est le deuxième jour. Et le troisième jour, ça, c'est...
Est-ce qu'on peut juste donner le rendez-vous demain de la balade ?
Mais elle est complète.
Alors, le problème de la balade, c'est qu'elle est... archi complète.
Mais par contre, je vais l'enregistrer, donc je pourrai la diffuser sur Radio Galère.
Merci.
Et... Après, pour les personnes qui sont vraiment très, très désireuses de venir, je pense qu'il y a moyen d'envoyer un mail. Vous pouvez voir sur le site de la Quadrature du Net. Il y a le programme complet et il y a l'adresse mail. Et éventuellement, il y a peut-être des choses qui peuvent se discuter. La balade, elle est faite en partenariat avec le Bureau des guides du GER 2013, qui est une association qui organise des balades urbaines. Et le dimanche, on est accueilli à la Cité de l'Agriculture. Pour faire une journée qui sera plutôt des discussions avec différents collectifs. Donc, je vous ai déjà parlé de Génération Lumière. Il y aura aussi un autre collectif qui s'appelle Stop Micro, qui lutte autour de Grenoble contre une usine qui s'appelle STE Micro Electronics, qui est une usine qui fabrique des micro-puces qui est utilisée notamment dans tout ce qui est objets connectés ridicules comme les gourdes connectées pour te rappeler qu'il faut boire, etc. Mais aussi dont le cœur du projet est de fabriquer des puces pour l'armement. Et on voit bien que cette triangulaire armement, consommation d'eau et d'électricité et numérique, elle se rejoue dans ce site-là. Il y aura aussi le Fluid Space, il y aura aussi des gens de Framasoft et différents collectifs qui nous permettent d'aborder ces questions sous plein d'angles différents. Et je vous invite, parce que je n'ai pas pu citer tout le monde, à aller regarder sur le site de la Quadrature du Net.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Eh bien, bienvenue pour l'agenda.
Donc, on va aller vite.
Très, très vite. Alors, en vite fait, pour ce soir, à Acte, 39 rue du Paradis, il y a des rencontres résistées en féministes à l'occasion de la sortie du numéro spécial La Déferlante. Et il faut s'inscrire par mail à direction@approcheaupluriel.fr.
Et aussi ce soir, au local solidaire 29 boulevard Longchamp, de la Palestine au Liban, les racines de la résistance, rencontre conférence avec Khaled Hadada, ancien secrétaire général du Parti communiste libanais.
Et comme on a dit ce soir, il y a la méga ordinateur bétonné en surchauffe au cinéma Le Gyptis à partir de 18h30.
Toujours ce soir, c'est au centre LGBTQIA+, 21 rue du Chevalier Rose à Marseille. C'est la soirée contre le pinkwashing. Donc ça commence à 19h. Il y a une cantine, il y aura une projection à 20h qui s'appelle, j'ai pas le nom, Pinkwashing Exposed, Seattle Fights Back, de Dean Spade.
Yes.
Toujours ce vendredi à 19h à la DAR cette fois, soirée soutien pour Locking Anna, un local antiraciste et féministe autogéré. Il y aura cantine et soirée.
Et toujours et encore ce soir au local G Canafani, le 23 rue de Crimée, une réunion publique pour connaître et soutenir la révolution du peuple philippin contre l'impérialisme. Donc là, faites des choix quoi.
C'est clair, il y a trop de choses. Et donc là en fait on va direct passer à samedi 9, donc demain. Donc à la DAR, il y a une collecte de vêtements toute la journée de produits d'hygiène pour le collectif Sirakajan.
Toujours samedi à 13h au Réformé, il y a une manifestation pour la liberté pour Ocalan.
Et Lambo et Data fêtent leurs 20 ans, des concerts et expos à retrouver ce week-end et dans les prochaines semaines sur lambobineuse.biz.
Il y a un rassemblement demain à 15h30 devant la prison des Baumettes.
Toujours samedi 9 novembre, 17h30 à la librairie Transit, présentation de Avant la nuit de Maria Malagardis, sujet sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994.
Une cantine végane à prix libre à Manifesten en soutien au collectif d'entraide pour les familles déplacées du Liban, samedi 9 à 19h.
Et toujours dimanche, là, toujours la manifestation hebdomadaire pour la paix en Palestine et la liberté de la Palestine. Donc c'est à 14h dimanche 10 novembre, 14h à la porte d'Aix à Marseille.
Pareil que c'est aussi le Vite Cafouche le 10 novembre et il y aura une diff mobile sur la plaine. N'hésitez pas à aller prendre des brochures antimilitaristes.
Et le mardi 12 novembre à 19h à la DAR, projection d'un film qui s'appelle Nous n'avons pas peur des ruines en présence du réalisateur Yanis Youlountas.
Mercredi 13 novembre, c'est les écrans de la flamme au Vidéodrome sur le cours Julien qui propose une projection en soutien aux déplacés du Liban avec un film qui s'appelle Loin de chez nous de Wissam Tagnos, qui est un documentaire franco-libanais de 2021 en présence du réalisateur et en partenariat avec le collectif La Malef.
Et pour terminer, l'agenda bien chargé, mercredi 13 novembre 19h, soirée Mémoire des squats à Manifesten. Autour du livre Squat et Pirate, où on va parler expérience de squat dans l'Hexagone, en Catalogne et ailleurs.
Bon bah voilà, on est allé très très vite, vous pouvez nous réécouter si vous n'avez pas eu le temps de tout noter.
Et petite phrase pour la fin, à bas le réarmement militaire, technologique, industriel et démographique.
Et merci beaucoup à Anti, à toi d'être venu nous parler de festival, de t'être déplacé, d'avoir été très clair. J'ai tout compris.
Ah, merci. Bon vendredi.
Ciao, merci ciao. À la technique.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.